Chapitre 14. Les extrêmes se touchent. Un groupe de pauvres se dirigeait vers la porte, fort à propos pour Corvinus, qui se joignit à eux et les contrefaisait à merveille, sans pouvoir cependant s'approprier leur attitude modeste. Il était assez près d'eux pour entendre sortir de leur bouche, au moment où ils entraient, les mots « Deo gratias »« Rendons grâce à Dieu ». C'était là un mot de passe, je ne dirais pas chrétien, mais catholique, car saint Augustin nous l'apprend, les hérétiques ridiculisaient les catholiques qu'il employait et disaient que ce n'était pas là un salut, mais une réponse. Mais les catholiques continuaient à s'en servir parce qu'il était consacré par un usage pieux. Dans des circonstances semblables, on le répète encore en Italie. Corvinus prononça les mots consacrés et on le laissa passer. Suivant de près les autres, copiant leurs manières et leurs gestes, il se trouva dans la cour intérieure de la maison. Elle était déjà remplie de pauvres et d'infirmes. Les hommes étaient rangés d'un côté, les femmes de l'autre. Sous le portique, on voyait des tables, les unes couvertes d'argenterie précieuse, les autres de bijoux magnifiques. Deux orfèvres pesaient et évaluaient consciencieusement ces objets de prix. Devant eux, on voyait l'argent qu'ils donnaient en échange et qui devait être distribué aux pauvres en parts égales. Corvinus regardait toutes ces richesses d'un œil de convoitise. Il aurait voulu pouvoir s'emparer d'une partie de ses biens et se sauver ensuite. Mais il comprit que ce serait folie de tenter un pareil coup et il se résigna à attendre son lot en prenant note pour Fulvius de tout ce qu'il voyait. Il se sentit pourtant bientôt embarrassé de sa fausse position. Tant que les pauvres restèrent mêlés en groupes qui allaient et venaient, il ne fut pas remarqué. Il vit bientôt plusieurs jeunes gens aux manières distinguées et aisées qui paraissaient avoir de l'autorité sur les visiteurs. Ils portaient le costume connu par Corvinus sous le nom de dalmatique qui indiquait son origine dalmate. Il consistait en une tunique courte mise par-dessus la première au lieu de la toge. Les manches étaient larges sans être longues. Ce costume était celui que revêtaient les diacres, non seulement quand ils accomplissaient leur ministère sacré dans les églises, mais même lorsqu'ils remplissaient leurs devoirs de charité envers les malades et les pauvres. Ces jeunes gens rangeaient les pauvres dans un ordre particulier. Il était évident que chacun d'eux venait chercher ceux de son propre district et les conduisait à une place particulière sous les portiques. Aucun des diacres n'ayant reconnu et n'étant venu réclamer Corvinus comme un de ces pauvres, il resta bientôt seul au milieu de la cour. Il sentait bien, malgré l'épaisseur de son intelligence, dans quelle situation ridicule il était venu se jeter. Le fils du préfet de la cité, chargé de punir les violateurs du droit domestique, il était entré en intrus jusque dans la partie la plus reculée et la plus inviolable d'une maison patricienne, déguisé en mendiant, et s'était mêlé à des pauvres pour atteindre un but sinistre ou tout au moins illégal. Il regardait la porte, méditant de s'enfuir, mais il vit qu'elle était gardée par un vieillard nommé Diogène et par ses deux robustes fils. Il pouvait à peine contenir l'indignation que leur faisait éprouver la conduite de Corvinus. Les éclairs qui jaillissaient de leurs yeux et leurs lèvres serrées prouvaient assez la vivacité de cette indignation. Il comprit que les jeunes diacres s'entretenaient à son sujet, car de temps à autre ils le regardaient. Et il s'imaginait dans son trouble que les aveugles eux-mêmes attachaient sur lui des regards de colère et que les boiteuses étaient prêts à lever leurs béquilles comme au temps de massue. Une seule pensée le consolait, il espérait n'avoir pas été reconnu et pouvoir s'en tirer en faisant des excuses. À la fin, le diacre Reparatus avança vers lui et lui dit doucement « Ami, vous ne faites sans doute pas partie des régions convoquées aujourd'hui. Où demeurez-vous ? » Dans la région de l'Alta Semita. Cette réponse se rapportait à la division civile et non à la division ecclésiastique de Rome. Reparatus reprit. L'Alta Semita est dans ma région et pourtant je ne me rappelle pas vous avoir jamais vu. Pendant qu'il disait ces mots, il vit les traits de l'étranger se couvrir d'une pâleur mortelle tandis que ses yeux s'attachaient fixement sur la porte de communication qui reliait les deux demeures. Reparatus regardant dans la même direction et vit Pancratius qui venait d'entrer et prenait à la hâte quelque information auprès de Secundus. Le dernier espoir de Corvinus s'évanouissait. L'instant qui suivit le trouva face à face avec le jeune homme, qui pria Réparatus de s'éloigner. Cette rencontre avait des rapports avec la dernière qui les avait réunis. Mais cette fois, au lieu d'une foule de lâches prêts à l'applaudir, Corvinus était entouré de tous côtés d'une multitude favorable à son antagoniste. Corvinus ne put s'empêcher de remarquer le gracieux développement et le port viril que ces quelques semaines avaient donné à son ancien compagnon d'études. Il s'attendait à d'amers reproches, peut-être à quelques châtiments exemplaires, que lui n'aurait pas manqué d'infliger si les rôles s'étaient trouvés tout à coup changés. Quel fut donc son étonnement quand Pancratius lui dit de sa voix la plus douce « Corvinus, êtes-vous réellement réduite à la pauvreté et quelque accident vous a-t-il rendu infirme? Comment avez-vous quitté la maison de votre père ?»« Je n'en suis pas encore là, j'espère, » reprit le misérable auquel la douceur de ce langage rendait son insolence. « Sans doute vous en auriez été bien aise. » En aucune façon, je vous l'assure, je ne vous ai pas gardé rancune. Si vous avez besoin de secours, dites-le-moi franchement, quoique vous n'ayez pas le droit d'être ici. Je vous conduirai dans une chambre particulière où vous serez secouru tout en restant inconnu. Alors, je vais vous dire la vérité. Je suis venu ici satisfaire un caprice et je vous serai obligé de me laisser tranquillement sortir. Corvinus, reprit le jeune homme avec un accent de sévérité. Votre conduite n'est pas excusable. Que dirait votre père si j'ordonnais à ces jeunes gens, qui m'obéiraient aussitôt, de vous prendre tel que vous êtes, nu-pieds, vêtus comme un esclave, contrefaisant l'estropié, de vous conduire ainsi dans le forum devant son tribunal, sous l'accusation d'avoir pénétré de force dans l'intérieur d'une maison patricienne, acte coupable et que tout Romain condamnerait ? Au nom des dieux, mon bon Pancratius, ne m'infligez pas un si rude châtiment. Vous savez, Corvinus, que votre père serait obligé à agir envers vous comme Junius Brutus envers ses fils, sous peine de manquer à son devoir. Je vous en supplie, par tout ce que vous avez de plus cher et de plus sacré, ne me déshonorez pas ainsi, moi et les miens. Non seulement moi, mais mon père et sa famille seraient ruinés pour jamais. J'irai vous demander pardon à genoux de mes injures passées si vous vous montrez miséricordieuse envers moi. « Arrêtez, arrêtez, Corvinus. Je vous ai dit que ces injures étaient depuis longtemps oubliées, mais écoutez-moi. Tous, excepté ceux qui sont privés de la vue, ont été ici les témoins de votre attentat contre la loi qui protège les foyers. Il y aura donc 100 preuves pour une contre vous. Si jamais vous parlez de cette assemblée, ou mieux encore, si vous tentez de nuire à un de ceux qui en font partie, nous pourrons vous faire comparaître devant le tribunal de votre père. Me comprenez-vous, Corvinus ?» « Certainement, répliqua le captif d'un ton dolent. Jamais, tant que je vivrai, je ne dirai à âme qui vive que je vins dans ce lieu redoutable, j'en jure par. Assez, assez, nous n'avons pas besoin ici de vos serments. Prenez mon bras et venez avec moi. » Puis, se tournant vers les assistants, il dit « Je connais cette personne, son entrée a été l'objet d'une méprise. » Les spectateurs, qui, trompés par les gestes suppliants du misérable et l'accent de sa voix, avaient cru qu'il racontait l'histoire de ses souffrances et qu'il demandait avec instance une aumône, s'écrièrent tous « Pancratius, le renverrez-vous à jeun et sans secours ?»« Laissez-moi ce soin, » répondit l'adolescent. Les gardiens volontaires des portes laissèrent passer Pancratius, qui conduisit dans la rue Corvinus, contrefaisant encore l'estropié. Il le renvoya en lui disant « Corvinus, nous sommes quittes maintenant, mais rappelez-vous votre promesse. » Comme nous l'avons vu, Fulvius essaya d'entrer par la grande porte qu'il trouva ouverte selon la coutume romaine. Et en vérité, qui eût attendu la venue d'un étranger à pareille heure? À la place d'un portier, il trouva, gardant l'entrée, une simple et modeste jeune fille âgée de 12 ou 13 ans et portant des vêtements de paysanne. Elle était seule. Fulvius pensa que c'était là une excellente occasion de savoir ce qu'il y avait de vrai dans le soupçon qui avait traversé son esprit. Il interpella donc la petite portière en ces termes. « Quel est votre nom, enfant, et qui êtes-vous ? »
« Je me nomme Emerentia et je suis la sœur de lait de la noble Agnès, » répondit-elle.
« Êtes-vous chrétienne ? » demanda-t-il ex abrupto. La pauvre petite paysanne ouvrit de grands yeux, où se peignaient la surprise et l'ignorance, et répliqua « Non, Seigneur !» Il était impossible de douter de sa simplicité et de sa véracité, et Fulvius en conclut qu'il s'était trompé. Le fait est que la jeune Emerentia était la fille de la nourrice d'Agnès. Sa mère venait de mourir et Agnès avait envoyé chercher sa sœur de lait pour l'instruire et la faire baptiser. Elle était arrivée depuis un jour ou deux et ignorait complètement ce qu'était le christianisme. Fulvius ne savait ce qu'il devait faire. Son isolement lui faisait sentir l'embarras de sa situation, comme la foule avait gêné son complice. Il songeait à se retirer, mais alors tout l'espoir qu'il avait mis dans cette aventure s'évanouissait. S'il avançait, il pouvait encore s'attirer quelques mauvaises affaires. Comme il hésitait encore, il vit passer dans la cour la jeune maîtresse de la maison, qui s'avançait légère, joyeuse et rayonnante comme le printemps. Dès qu'elle aperçut Fulvius, elle s'arrêta comme pour recevoir un message. Il s'approcha d'elle avec son sourire le plus courtois et ses manières les plus gracieuses et lui dit « J'ai devancé l'heure ordinaire des visiteurs et je crains de vous paraître indiscret, noble Agnès. Mais ne voyez ici qu'une preuve de mon empressement à venir m'inscrire parmi les humbles clients de votre illustre maison. » « Notre maison, répliqua-t-elle en souriant, ne s'enorgueillit pas de compter de nombreux clients et n'en recherche pas, car nous ne désirons ni influence ni pouvoir. Pardonnez-moi, avec un tel chef, votre maison possède la plus haute des influences, le plus irrésistible des empires, celui qui règne sans effort sur les cœurs qui se donnent volontairement. » Trop modeste pour penser que ces mots s'adressaient à elle, Agnès répondit avec une simplicité naïve « Oh, que vous avez raison! Le seigneur de cette maison règne vraiment sur tous les cœurs qui l'habitent. » Mais, reprit Fulvius, je fais allusion à la douce et bénigne influence que les charmes et la grâce seuls peuvent exercer sur ceux qui les approchent. Agnès semblait en extase. Ses yeux contemplaient une image bien différente de celle que le misérable flatteur voulait lui faire apercevoir, et avec un regard ardent dirigé vers le ciel, elle s'écria « Oui, mon amour et ma foi sont voués pour toujours à celui que le soleil et la lune contemplent et admirent dans leur firmament sublime. » Fulvius restait confondu et hésitant. Le regard inspiré d'Agnès, sa physionomie où brillait un saint ravissement, l'accent harmonieux et vibrant de ses paroles, leur sens mystérieux et l'étrangeté de la scène elle-même, le clouaient sur le sol et retenaient ses lèvres closes. Mais comprenant bien qu'il laissait échapper la plus favorable occasion de lui manifester ses intentions, « Je ne saurais dire de lui ouvrir son cœur. » Il dit hardiment à la jeune fille, « C'est de vous que je parlais, et je vous prie de recevoir ici l'expression de ma sincère admiration et de l'attachement sans bornes que j'ai pour vous. » En prononçant ces mots, il fléchit le genou et essaya de prendre la main d'Agnès. Mais la jeune fille recula, frémissante d'indignation, et détourna de lui son visage empourpré de rougeur. Fulvius se releva à la hâte, car il apercevait Sébastien qui venait chercher Agnès pour la conduire vers les pauvres, impatient de son absence. Il se dirigea vers Fulvius avec une physionomie indignée. « Sébastien, dit Agnès comme il approchait, ne vous irritez pas contre cet homme. Il est probablement entré ici par méprise. Certainement, il se retirera sans difficulté. » En achevant ces paroles, elle s'éloigna. Sébastien était calme, mais l'énergie de son caractère se reflétait sur son visage. Il marcha droit à l'intrus qui pâlissait sous son regard. « Fulvius, lui dit-il, que faites-vous ici? Quelle affaire vous y amène ?»« Je pense, répondit celui-ci en reprenant courage, qu'ayant rencontré la maîtresse de maison dans le même lieu que vous, à la table de son noble cousin, j'ai autant de droits que les autres clients volontaires de sa maison de venir la visiter. » Mais non à une heure peu convenable pour les visites. Si un jeune officier est admis à cette heure, pourquoi ne le saurais-je pas ? Répondit insolemment Fulvius. Sébastien eut besoin de tout son empire sur lui-même pour réprimer son indignation quand il répliqua « Fulvius, prenez garde à vos paroles. Souvenez-vous que deux personnes peuvent être sur un pied bien différent dans la même maison. Songez que la plus longue familiarité, encore moins une connaissance faite de la veille à dîner,
ne saurait autoriser ou justifier votre audacieuse conduite d'il y a un moment envers la jeune maîtresse de cette maison. » « Ah, vous êtes jaloux, brave capitaine !» reprit Fulvius de son ton le plus railleur. « On dit que vous êtes le candidat qui a le plus de chance à la main de Fabiola, si elle ne vous est pas déjà promise. Comme elle est à présent à la campagne, vous voulez vous assurer la fortune de l'une ou l'autre des deux plus riches héritières de Rome. Il n'y a rien de si sûr que d'avoir deux cordes à son arc. » Ce grossier et amer sarcasme blessait au vif les plus nobles sentiments du jeune homme, et si, depuis longtemps, il n'avait su se plier à la douceur chrétienne, son sang révolté aurait emporté sa raison. « Il n'est bon pour aucun de nous, Fulvius, que vous restiez ici plus longtemps. Puisque le congé de la noble fille que vous avez insultée n'a pas suffi, je me charge de l'exécution de son ordre. » Disant ainsi, il saisit le bras de Fulvius dans une puissante étreinte et le conduisit à la porte. Quand il l'eut mis dehors, le retenant encore, il lui dit « Allez en paix, Fulvius, et souvenez-vous que par votre indigne conduite d'aujourd'hui, vous avez enfreint les lois de l'État. Je vous épargnerai si vous vous tenez en repos. Mais il est bon que vous le sachiez, je connais quelle est votre occupation à Rome, votre insolence de ce matin m'a livré une arme que je tiens suspendue au-dessus de votre tête comme une menace si vous ne gardez pas le silence. À présent, je vous dis encore, allez en paix. » Sébastien n'eut pas plutôt lâché Fulvius qu'il se sentit saisi lui-même par un ennemi invisible, mais évidemment d'une force athlétique. C'était Eurotas à qui Fulvius ne cachait rien et auquel il avait confié son projet d'entrevue avec Corvinus. Eurotas avait suivi son jeune maître et il veillait sur lui. Il avait appris de l'esclave noir le caractère vil et bas de son client Corvinus et il appréhendait quelque embûche. Quand il vit l'espèce de lutte engagée à la porte, il courut, se glissa derrière Sébastien, qu'il prenait pour le nouvel allié de son pupille, et se rua sur lui avec la brutale impétuosité d'un ours. Mais il avait affaire à forte partie. Il essaya en vain, aidé par Fulvius, de terrasser le soldat. Désespérant de réussir par ce moyen, il détacha de sa ceinture une arme petite mais mortelle, une masse d'acier syrien d'un merveilleux travail, et la levait sur la tête de Sébastien, quand il la sentit arrachée de sa main et lui-même saisie sous une étreinte de fer, il tourna deux ou trois fois sur lui-même, puis alla tomber inerte dans le milieu de la rue. « Je crains que vous n'ayez blessé le pauvre homme, Quadratus, » dit Sébastien à son centurion, qui arrivait pour rejoindre ses frères les chrétiens et était doué d'une complexion et d'une force herculéenne. « Il l'a bien mérité par sa lâche attaque, tribun, » répliqua l'autre comme il rentrait dans la maison. Les deux étrangers abattus s'éloignèrent du lieu de leur défaite. Comme ils atteignaient le coin de la rue, ils aperçurent Corvinus qui s'enfuyait, non plus en boitant, mais de toute la vitesse de ses jambes, par la porte basse où il avait éprouvé une si humiliante déconvenue. Quand ils se rencontrèrent dans la suite, ils ne firent jamais allusion à leur mésaventure de cette matinée. Chacun d'eux savait que son complice avait recueilli de la honte sans profit, et ils en conclurent tous deux qu'il y avait au moins à Rome un troupeau que le loup et le renard assaillaient en vain.